France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la Centrafrique et les prédateurs du groupe Wagner. Débarqués dans l'ancienne colonie française au début de l'année 2018, les mercenaires russes du groupe Wagner vont déployer tout un arsenal de mesures pour mettre en place une prédation à grande échelle. Emprise des responsables russes sur le pouvoir local, présence toujours plus importante d'hommes en armes, violence contre la population, désinformation massive et pillage systématique des ressources naturelles, rien n'est laissé au hasard. Après des faits d'armes retentissants à partir de 2014 dans le Donbass et en Syrie, le groupe fondé par Evgeny Prigogine développe en Afrique une nouvelle stratégie. Et si elle contribue à l'enrichissement de l'oligarque proche de Vladimir Poutine, elle permet aussi et surtout à la Russie de s'implanter durablement dans une zone jusque-là située dans la sphère d'influence occidentale. Notre invitée aujourd'hui, Ksenia Bolshakova, journaliste, elle est avec Alexandra Jousset, la réalisatrice de documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, prix Albert Londres 2022. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Gaspard Valu, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Lundi 30 juillet 2018, Bang. Les journalistes russes Kirill Rodchenko, Alexandre Rastrogouyev et Orkan Jemal s'apprêtent à quitter leur hôtel de la capitale de la République centrafricaine. Leur chauffeur les attend dans la rue, au volant d'un 4x4. Les trois hommes sont des journalistes chevronnés, collaborateurs réguliers des rares médias indépendants en Russie. Ils sont habitués au terrain de guerre, ils ont couvert les conflits en Syrie, en Ukraine ou encore en Tchétchénie. Mais cette fois, la mission est particulière. Ils sont en Centrafrique pour le compte de Mikhail Khodorkovsky, l'un des principaux opposants de Vladimir Poutine. L'oligarque en exil leur a commandé un documentaire sur une organisation dont peu de monde connaît pour l'instant l'existence, le groupe Wagner. Comme beaucoup de journalistes, ils ont déjà entendu parler de ces mercenaires qui se sont illustrés dans le Donbass et en Syrie. Ils savent qu'ils traînent derrière eux une réputation macabre. Ils ont eu vent des exactions commises par ces soldats qui ne portent pas d'insigne. Ils savent aussi que derrière ce groupe se cache l'influent oligarque Evgeny Prigogine. Un homme qu'on appelle le cuisinier de Poutine, mais qui donne désormais dans le mercenariat et les fermatrolles. En tout cas, leur enquête sur les raisons de la présence de ces mercenaires dans ce pays d'Afrique centrale doit les mener à un peu plus de 150 km au nord de Bangui, où un informateur les attend. Après 4 heures de route, les trois journalistes et leur chauffeur arrivent au niveau de la localité de Sibout. Ils savent qu'une base de mercenaires de Wagner se trouve à proximité. Et c'est alors que la situation dérape. Leur voiture est stoppée par un barrage. Des hommes blancs, visage masqué, les arrêtent. Dans la confusion, le chauffeur parvient à s'échapper. Les trois journalistes, eux, sont pris au piège.
RFI. L'ONG Reporters sans frontières demande aux autorités russes et centrafricaines de mener une enquête sérieuse et approfondie sur la mort de trois journalistes russes en Centrafrique. Les trois hommes, reporters, caméramans et documentaristes, ont été retrouvés morts lundi soir à Sibut, à près de 200 km au nord-est de Bangui. Ils seraient tombés dans une embuscade, mais aucune information n'a filtré sur l'identité des assaillants et leur motivation. Bonjour Anastasia Belkiou.
Bonjour. Selon la rédactrice en chef adjointe du site pour lequel les trois journalistes travaillaient, ils avaient tenté de s'approcher d'une base présumée du groupe Wagner à Bangui, mais en ont été empêchés au motif qu'ils n'avaient pas d'accréditation. Toujours selon Anastasia Gorshkova, le lendemain, ils ont pris la route pour rejoindre un collaborateur de l'ONU prénommé Martin, qui devait leur servir de fixeur. C'est lui qui leur aurait recommandé le chauffeur qui est le seul rescapé de l'attaque.
Merci Anastasia Bekio.
L'enquête des autorités centrafricaines conclut rapidement un braquage qui a mal tourné. Mais cette version ne tient pas la route. L'intégralité des effets personnels des journalistes russes sont retrouvés à proximité de leur corps. Pour les observateurs, comme pour les opposants à Vladimir Poutine, il ne fait aucun doute que ce triple assassinat est l'œuvre des mercenaires de Wagner. Wagner, L'histoire de ce groupe débute en 2014. Alors qu'un vaste mouvement populaire s'empare de la place Maïdan à Kiev et que le président pro-russe Viktor Yanukovych est destitué, une partie de l'Ukraine sombre dans le chaos. Au sud, en quelques jours seulement, la Russie annexe la péninsule de Crimée. À l'est, dans le Donbass, des groupes séparatistes s'engagent dans un violent conflit armé avec les troupes ukrainiennes. Sur ces deux territoires, les services de renseignement ukrainiens et occidentaux constatent la présence de soldats sans insigne. Ils parlent russe, mais refusent de dire qui ils sont. Très vite, les médias venus couvrir ce nouveau conflit s'interrogent.
À Simferopol, capitale régionale, l'aéroport n'est à l'évidence plus sous le contrôle des autorités ukrainiennes. Cagoulé, armé de Kalachnikov dernière génération, ces hommes prennent possession des lieux, y compris de la tour de contrôle. Ils sont une centaine et ne laissent aucune négociation possible au personnel. Et quand notre traductrice les interpelle directement, pas de commentaire. Ces soldats ne portent aucun insigne sur leur treillis, mais selon le nouveau pouvoir en place à Kiev, ils seraient directement commandés par les autorités russes.
Ces hommes, lourdement armés, sont en réalité des mercenaires, membres de SMP, des sociétés militaires privées. En Crimée, ils sont sollicités pour sécuriser le territoire et encadrer la tenue du référendum voulu par Moscou. Dans le Donbass, ils accompagnent, forment et se battent aux côtés des séparatistes pro-russes. Parmi ces unités présentes en première ligne à l'est de l'Ukraine, une en particulier semble se démarquer. Un groupe de combattants qui se fait appeler Wagner. Wagner, c'est aussi le nom de guerre de son commandant, Dmitri Utkin. À 44 ans, cet ancien des forces spéciales russes ne fait pas mystère des raisons de ce surnom. Admirateur du Troisième Reich, dont il porte de nombreux symboles tatoués sur le corps, Utkin est un chef de guerre impitoyable. Grand, imposant, crâne soigneusement rasé et regard froid comme la glace, le chef du groupe de mercenaires se forge une réputation sur la ligne de front dans le Donbass. Et avec ses hommes, il parvient à tenir en respect l'armée régulière ukrainienne. Derrière Dmitri Utkin et ses mercenaires se cache un homme. Il est le financier du groupe Wagner et celui qui tire les ficelles politiques. Son nom, Evgeny Prigojine. Ancien gangster passé par les prisons soviétiques dans les années 80, Prigojine se reconvertit dans la restauration après l'effondrement du RSS. Il est le propriétaire de restaurants de luxe à Saint-Pétersbourg. Businessman et politique, tous ceux que la ville compte de puissants se pressent à sa table. L'ex-truand se fraye désormais un chemin auprès des hommes les plus influents de l'ancienne cité des tsars. Parmi les clients fidèles, un certain Vladimir Poutine. Le jeune adjoint au maire passé par le FSB, les services secrets russes et le restaurateur à succès se lie d'amitié. Prigojine sait très bien que son nouvel ami est un ambitieux et il compte bien en profiter. Avec d'autres, il se glisse donc dans l'ombre de cette star bientôt tsar, prêt à le suivre dans sa démarche vers le pouvoir. Il l'accompagne à Moscou lorsqu'il intègre l'équipe de Boris Eltsine. Il est également présent quand son mentor est élu président de la Fédération de Russie.
Vladimir Vladimirovich Poutine.
Une cérémonie d'investiture au faste de l'époque impériale qui a débuté salle Saint-Georges au Kremlin avec l'arrivée du drapeau russe porté par la garde du chef de l'État en uniforme d'apparat. Mais c'est dans la somptueuse salle du trône des tsars que Vladimir Poutine est officiellement devenu président de la Russie, après avoir prêté serment la main solennellement posée sur la Constitution.
La construction d'un État démocratique n'est pas encore terminée, mais beaucoup a été fait. Nous devons maintenir et développer la démocratie dans notre pays. Probablement, je n'arriverai pas à éviter les erreurs, mais je vais travailler honnêtement.
Sous les applaudissements, Vladimir Poutine, accompagné de Boris Eltsine, a quitté la salle Saint-André pour rejoindre la place des cathédrales au cœur du Kremlin. Les soldats ont salué le chef de l'État par un « bonjour camarade », président de la Fédération de Russie.
L'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir est une aubaine pour Evgeny Prigojine. Sa proximité avec le nouvel homme fort du Kremlin lui permet de se remplir les poches. Il se lance alors dans la restauration collective. Sa société, baptisée Concorde, multiplie les contrats en or avec l'État. D'abord, prestataire important du Kremlin pour l'organisation des dîners et réceptions au palais présidentiel, Il obtient dans la foulée le marché public pour la gestion des cantines scolaires. Evgeny Prigojine signe ensuite son plus gros client, l'armée. Un contrat plusieurs centaines de millions de dollars par an. Les années passent et l'oligarque bâtit un véritable empire. Les filiales de son groupe remportent de nombreux appels d'offres, manutention, construction, transport. L'homme d'affaires devient l'un des bénéficiaires les plus importants des largesses de l'armée russe. Millionnaire de Saint-Pétersbourg, il est désormais l'un de ses plus influents de Moscou. Mais Prigojine sait qu'il doit sa fortune à Vladimir Poutine. Et dans cette Russie-là, c'est donnant-donnant. Les nombreux contrats, largement surévalués, accordés aux entreprises de celui qu'on surnomme le cuisinier du Kremlin, doivent servir à financer d'autres activités, mais plus discrètes, celles-là. Supporters zélés du président russe, l'oligarque finance en sous-main la création de l'IRA, l'Internet Research Agency. Derrière ce nom respectable, se cache en réalité l'une des plus importantes entreprises de propagande et de désinformation jamais mises sur pied. Promotion de la politique du Kremlin en Russie comme à l'international, défense des alliés de Moscou ou encore déstabilisation de pays hostiles, les trolls de l'IRA sont sur tous les fronts. Ils se font notamment remarquer en 2016 à l'occasion de l'élection présidentielle américaine.
Pour illustrer la manipulation des réseaux sociaux, un sénateur présente une publicité anti-Clinton achetée en mai 2016 par la Russie sur Facebook.
Cette publicité dit, je cite, qu'Hillary Clinton est avec Barack Obama la plus méprisée par les vétérans de l'armée et que si elle était élue, le contrôle de l'armée devrait lui être retiré. Cette publicité n'est rien d'autre qu'une ingérence directe du gouvernement russe dans nos élections. Un mensonge aux citoyens américains qui pensent être sur la page de vétérans basés au Texas, alors qu'en fait, tout cela est payé en roubles par des Russes.
En 2 ans, selon Facebook, Internet Research Agency, société basée à Saint-Pétersbourg, a diffusé 80 000 messages de ce type, une propagande vue par 126 millions d'Américains. Twitter dénombre de son côté plus de 30 000 comptes russes, tous diffusaient des fausses informations sur les sujets les plus sensibles, armes, immigration, revendications homosexuelles, inégalité raciale, pour attiser les tensions et favoriser Donald Trump.
Prigojine ne se limite pas au fermatrol. Il se lance également dans une autre activité utile à Vladimir Poutine, le mercenariat. Les sociétés militaires privées sont un outil classique des grandes puissances. Elles offrent un moyen d'intervention discret sur des théâtres d'opération où leurs intérêts sont en jeu. Et si jamais des hommes en armes se font prendre la main dans le sac, il est toujours possible de réfuter tout lien avec l'entreprise. En diplomatie, on appelle ça le déni plausible. En Russie, en revanche, il y a une nuance et elle est d'importance. Les sociétés militaires privées sont formellement interdites par la loi. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, surtout quand on a le soutien du Kremlin. Fondée dans la plus grande discrétion et dans les premières heures de la révolution ukrainienne de 2014, le groupe Wagner n'a aucune existence légale. Non, il n'est qu'un nom, une rumeur. Les hommes que le groupe emploie, d'anciens militaires pour la plupart, sont rémunérés via des entreprises de la constellation Prigojine, créées selon les besoins du moment. C'est le cas au début de l'année 2016. Cette année-là, la toute jeune société Evropolis signe un contrat important avec le dictateur Bachar al-Assad. Le grand allié de Vladimir Poutine au Moyen-Orient fait alors appel à Moscou pour l'aider dans son combat contre la révolution qui a plongé son pays dans le chaos. Si l'armée régulière russe est déjà mobilisée depuis l'automne 2015, les mercenaires de groupe Wagner, payés par Evropolis, sont eux aussi envoyés sur le front. Dans l'ombre des soldats officiels, ils participent à des missions périlleuses aux côtés de l'armée syrienne. Ils s'illustrent lors de batailles importantes, comme lors de la reprise de la cité antique de Palmyre aux djihadistes de l'État islamique. Alors que l'aviation russe appuie les forces gouvernementales, les mercenaires, eux, se battent au sol dans la plus grande discrétion. Oui, sauf que l'une de ces victoires retentissantes fait la une des médias du monde entier.
En Syrie, cette fois, d'autres combats sont en cours contre les milices de Daesh. L'armée syrienne, avec l'appui aérien des forces russes, a repris ces dernières heures le site antique de Palmyre, sur place Tiffen Piogé.
Dans les ruines de Palmyre, le drapeau syrien flotte à nouveau. Appuyée par les hélicoptères de l'aviation russe, l'armée syrienne a repris le contrôle total de la cité antique. Elle était de nouveau occupée depuis décembre dernier par le groupe État islamique.
On a pu aller vite et reprendre les lieux en peu de temps. C'est le résultat de notre avancée au sol, celle de nos troupes, des tanks et de la coopération avec nos alliés, notamment les Russes.
L'objectif, débarrasser définitivement Palmyre des djihadistes qui se sont réfugiés dans les montagnes voisines.
Mais l'objectif principal des mercenaires n'est pas là. Leur mission prioritaire, c'est de reprendre et de sécuriser ce qui fait la richesse de la Syrie, ses ressources naturelles. À la fin de l'année 2017, les soldats de l'ombre de la Russie ont déjà repris 4 des puits de pétrole et de gaz les plus importants du pays. L'enjeu est de taille pour le groupe Wagner. Le contrat passé avec l'État syrien précise en effet que la société Evropolis obtient 25% des revenus générés pour chaque gisement repris aux mains des rebelles. Plusieurs dizaines de millions de dollars annuels pour chaque installation. La manne financière est donc colossale et elle justifie de prendre tous les risques. Au début du mois de février 2018, une unité de Wagner déclenche une opération contre le site gazier de Konoko à l'est du pays. La zone est contrôlée par les forces kurdes, soutenues par l'armée américaine. Les mercenaires le savent, mais ils ne renoncent pas. Alertés par des accrochages aux abords du site, les militaires américains repèrent des blindés et des équipements habituellement utilisés par les forces russes. Ils contactent les responsables à Moscou, qui leur assurent d'avoir aucun homme sur place. La riposte est alors immédiate. L'aviation américaine déclenche un bombardement massif sur les positions des mercenaires. Pour le podcast intitulé « L'affaire M0346 » de Paradiso Media, Marat Gabidoulin, un ancien mercenaire de Wagner, raconte la suite des événements.
De manière générale, tout le groupe de mercenaires était sous le feu des drones. Puis les hélicoptères sont entrés dans la danse. Nous ne pouvions absolument rien faire contre cette armada. On se faisait exécuter, tout simplement. Enfin, on reçoit l'ordre de battre en retraite. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu prends tes jambes à ton cou et tu cours pour sauver ta vie. J'ai traversé une zone de mort. Ça m'a paru une éternité. Ça tombait tout autour de nous. Quand les Américains ont donné un couloir, nous sommes allés ramasser les blessés, les vivants, les cadavres et toutes les armes. Nous avons retrouvé quelques blessés encore vivants. Mais les blessures étaient si graves que beaucoup de blessés sont morts pendant qu'ils attendaient les secours.
Les pertes dans les rangs de Wagner sont considérables. Mais les mercenaires ont rempli leur rôle. La parfaite illustration du déni plausible. L'expérience syrienne est donc un succès. Les soldats qui n'ont pas d'insigne ont servi les intérêts russes et l'argent du gaz et du pétrole a rempli les caisses de l'Empire Prigogine. Le modèle mis en place est prêt à être exporté. La prochaine cible du groupe est déjà trouvée, la Centrafrique.
Yeah.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le groupe Wagner.
France Inter. Affaires Sensibles.
Après le laboratoire syrien, Evgeny Prigojine décide donc d'exporter ses mercenaires en Afrique, un continent plein de promesses. Les ressources naturelles à exploiter sont immenses et la possibilité de se frayer un chemin dans cette zone d'influence occidentale, notamment française, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ainsi qu'à partir de la fin de l'année 2017, le chef du groupe Wagner décèle une nouvelle opportunité. Un pays où l'influence française est en déclin et où les possibilités semblent presque illimitées, la Centrafrique.
Des rafales d'armes automatiques retentissent dans plusieurs quartiers de Bangui. La capitale centrafricaine est en état de siège. Des miliciens chrétiens auraient infiltré le nord de la ville. Les hommes de la Séléka, des musulmans qui contrôlent Bangui, ont violemment riposté. Autour de la mosquée, l'ambiance est électrique. Les habitants brandissent machettes et fusils et appellent à la vengeance. À l'intérieur, des corps mutilés à l'arme blanche. Des hommes, des femmes, des enfants, leurs corps lacérés par les coups de machette. Depuis plusieurs mois, le pays bascule dans le chaos. La population prise au piège fuit les violences et ils sont nombreux à s'être réfugiés dans la brousse où la situation humanitaire est devenue catastrophique.
Ravagée par des décennies de guerre civile, la Centrafrique connaît une nouvelle crise à partir de la fin de l'année 2016, alors que les troupes françaises de la force Sangaris quittent le pays. Le nouveau président, Faustin Archange Touadéra, est déjà menacé par une rébellion armée. Et il sait que pour se maintenir au pouvoir dans ce pays dont il ne contrôle que 20% du territoire, il va devoir compter sur de l'aide extérieure. Et il se rapproche alors de Vladimir Poutine, qui sous mandat de l'ONU s'engage à envoyer du personnel militaire. Le maître du Kremlin délègue alors cette mission à Evgeny Prigojine et au groupe Wagner. Les premiers mercenaires arrivent à Bangui, la capitale centrafricaine, au début de l'année 2018. Deux nouvelles sociétés sont créées pour l'occasion. Siwa Security Services pour le volet sécuritaire et Loba Invest pour le volet financier. Le groupe augmente ses effectifs et recrute des combattants francophones pour assurer le dialogue avec les responsables locaux. Plusieurs anciens de la Légion étrangère intègrent ainsi les rangs de Wagner. Installés dans l'ancienne résidence de l'empereur Bokassa, en périphérie de la capitale, les mercenaires de Siwa Security encadrent la formation de soldats centrafricains. Un groupe d'élite est affecté à la garde rapprochée du président Touadéra, dont le nouveau conseiller spécial à la sécurité s'appelle Valérie Sakharov. Membre de Wagner, sous le matricule M5658, cet ancien officier des douanes russes est le chef du groupe en Centrafrique. Les mercenaires participent également aux batailles contre la rébellion et permettent au pouvoir central de regagner peu à peu du terrain. Bien, mais les Wagner ne perdent pas de vue leur objectif. Peu de temps après leur arrivée sur place, des unités sont envoyées dans les zones d'intérêt dont la Centrafrique regorge. Accompagnés de géologues mandatés par Loba Invest, les mercenaires prennent le contrôle des principales mines d'or et de diamants du pays. Et s'il faut employer la force pour déloger les rebelles, les mercenaires russes ne se privent pas et les accrochages se multiplient. Parmi les objectifs convoités par les dirigeants du groupe, un s'impose comme prioritaire, la mine d'or de Ndassima, au centre du pays. Quelques années plus tôt, une entreprise canadienne en obtient les droits d'exploitation. Leurs études sont formelles. Les revenus bruts de la mine sont estimés à 2,5 milliards d'euros sur 8 ans. Un véritable trésor. Le nouveau pouvoir en place à Bangui décide alors de rebattre les cartes. Les Canadiens sont écartés et la concession est remise sur le marché. Enfin, officiellement. Car Evgeny Prigojine a déjà prévu le coup, évidemment. Et l'appel d'offres n'est qu'un leurre. Dans le documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, réalisé par Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset, un spécialiste du secteur minier centrafricain dévoile les manœuvres mises en place par les Russes pour récupérer cette concession pleine de promesses.
La société Midas a été créée entre le 12 et le 13 novembre 2019.
D'accord. Et l'appel d'offres international sur le gisement a été fait le 15. Donc, 2-3 jours d'intervalle après la création de la société Midas. Ce qui montre déjà...
une connivence.
C'est pour nous, c'est du flagrant.
Midas Resources est une nouvelle entreprise étroitement liée à Loba Invest qui concentre les intérêts financiers des groupes Wagner en Centrafrique. Dès l'obtention de la concession, les mercenaires se mettent au travail. Le secteur est sécurisé et les localités alentour purgées de tout ce qui compte de rebelles ou associés. La mine Ndassima se transforme. Jusqu'ici exploitée de manière artisanale par des milliers de mineurs locaux, elle est désormais industrialisée. Des dizaines de camions et tractopelles sont acheminés sur place et des sites automatisés sortent de terre en quelques semaines. Les géologues russes sont à la manœuvre, protégés par les mercenaires. Mais le projet d'Evgeny Prigojine en Centrafrique ne se limite pas au seul volet sécuritaire et financier. Il y met également en place un vaste projet de propagande pro-russe et surtout anti-français. Pour coordonner cette nouvelle phase de l'action du groupe dans le pays, il fait venir Dimitri Ziti. Ce trentenaire, passé par une école de commerce en France, est l'un des piliers de l'Internet Research Agency. Le jeune homme a de surcroît la confiance de Prigojine. Et surtout, il a carte blanche pour mener à bien sa mission. C'est donc d'abord sur Internet que se déploie sa stratégie. Les hommes de Ziti forment quelques proches de l'équipe présidentielle à la surveillance informatique. De nombreux faux comptes Facebook sont créés et des messages anti-français y sont intensément relayés. Des sites d'information peu scrupuleux reçoivent d'importantes subventions et se font les porte-voix du message russe en Centrafrique. Des associations locales obtiennent des financements venus de Moscou et sont incitées à organiser des manifestations dans lesquelles les drapeaux français sont brûlés sur la place publique. On les encourage également à défiler dans les rues de Bangui pour célébrer l'entente nouvelle entre la Russie et la Centrafrique. À titre d'exemple, la marque de bière la plus populaire, détenue par une entreprise française, se voit concurrencée du jour au lendemain par un brasseur venu de l'Est. Pour compléter le tableau, les propagandistes russes s'assurent également de faire passer le message auprès de la jeunesse centrafricaine. Une statue à la gloire des mercenaires est ainsi érigée devant l'université de Bangui. Une société de production appartenant à Evgeny Prigojine réalise également un film dans le plus pur style hollywoodien pour raconter la reconquête héroïque du pays par les hommes du groupe Wagner. Des dessins animés aux messages à peine voilés, financés par Loba Invest, sont également largement diffusés auprès des plus petits.
Dans un pays chaud, dans le centre de l'Afrique, des animaux laborieux cultivaient des courgettes, du maïs et du manioc. Et c'est l'éléphant assidu qui avait la plus grande récolte. Bientôt, les hyènes l'ont appris. Ils ont attaqué la ferme pour saisir les récoltes. L'éléphant était grand et fort, mais il n'a pas réussi à chasser les hyènes. Désespéré, il a appelé au secours. Et son appel a été entendu. L'ours, d'un pays lointain du nord, qui s'appelle la Russie, et s'est rendu sur le lieu et pour son ami. Il ne pouvait pas rester indifférent, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps et doivent s'aider l'un l'autre.
L'intense campagne de propagande déployée par les hommes de Prigojine fonctionne. Le sentiment anti-français monte partout dans le pays et les partisans de la Russie sont de plus en plus nombreux. Pourtant, la réalité que se cache derrière la présence du groupe Wagner est plus que mitigée. Les mois et les années passent, et malgré quelques victoires militaires importantes contre la rébellion, la situation dans le pays est loin d'être stabilisée. Mais l'emprise de Moscou sur le pouvoir et la prédation russe sur les ressources économiques centrafricaines, elles, sont de plus en plus visibles. Et comme en Syrie et partout ailleurs où les mercenaires s'installent, les violences contre la population deviennent monnaie courante. Parce que pour faire main basse sur les ressources naturelles, les soldats de l'ombre de Vladimir Poutine ne reculent devant rien. Dans les campagnes, les récits des exactions commises par les mercenaires sont toujours plus nombreux. Des histoires qui circulent à travers la brousse, mais qui ne sont que très rarement documentées. Un Un rapport de l'ONU recense tout de même 491 victimes de violences commises par les mercenaires russes pour au moins 144 civils tués lors de 240 incidents répertoriés pour la seule période de juin 2020 jusqu'à juillet 2021. Des incidents qui s'apparentent plutôt à des massacres. Comme lorsque dans le village de Boyo, à l'ouest de Bangui, 19 hommes sont sauvagement tués et au moins 6 femmes et jeunes filles sont violées par des mercenaires. Les victimes de ces violences sont nombreuses et les témoignages, eux, sont rares. Mais quelques prises de parole permettent tout de même de saisir l'ampleur des exactions commises par ces soldats qui n'ont pas d'insigne et qui n'ont pas de moralité. Dans le documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, un homme raconte la torture subie dans l'une des bases des mercenaires.
Dès que les Russes nous ont arrêtés, ils nous ont emmenés dans leur base. Ils nous ont déshabillés et ligotés, et ils ont commencé à nous torturer. Puis ils ont fait venir un interprète. Quand il est arrivé, nos visages étaient si déformés qu'il leur a dit qu'il fallait arrêter de nous frapper. Il a dit « Ils sont déjà presque morts ». Mais eux, ils continuaient. Ils nous faisaient des choses que même les soldats centrafricains refusaient de faire.
Quel genre de torture vous avez subi?
Ils ont pris un bâton. Ils l'ont mis dans mon anus. Ils ont aussi enfoncé des bouts de bois dans nos oreilles. Ils voulaient nous faire avouer que nous étions des rebelles. On a dit qu'on ne pouvait pas dire ce qu'on n'était pas.
Pour Evgeny Prigojine et Vladimir Poutine, peu importe les violences et les massacres, l'expérience Wagner en Centrafrique est un succès total. La déstabilisation de cette région, qui se situe traditionnellement dans la sphère d'influence française, a porté ses fruits et l'enrichissement des financiers du groupe est colossal. La prédation mise en place, grâce aux différents volets de la stratégie d'implantation, s'accentue même d'année en année au détriment du pays et de ses citoyens. Une expérience que le groupe Wagner s'emploie à exporter dans d'autres pays. Dévoilé dans le documentaire d'Alexandra Jousset et de Ksenia Bolchakova, un document interne à la firme de mercenaires détaille les ambitions régionales de Prigojine. Sur une liste d'une cinquantaine de pays visés, les anciennes colonies françaises propices à une implantation figurent en tête. Mali, Burkina Faso ou encore Côte d'Ivoire, les mercenaires russes se déploient partout. Et peu importe les avertissements des quelques citoyens centrafricains qui osent parler, l'instabilité de la région joue en faveur de la Russie. Peu importe également la guerre lancée par Moscou en Ukraine, même si elle a probablement ralenti les activités du groupe en Afrique, les mercenaires ont éprouvé un système qui marche et qui profite largement à la Russie. Alors que le pays subit de plein fouet les sanctions occidentales, les immenses revenus du groupe dans les pays qu'il investit continuent de profiter au Kremlin, comme depuis le début. Car comme l'a affirmé Poutine lui-même, après la tentative de rébellion du chef du groupe Wagner, c'est bien lui le financier originel. Et si Prigojine s'est enrichi, l'argent avait bien comme destination finale les caisses du Kremlin. Les morts d'Evgeny Prigojine, devenu trop encombrant, et du leader historique du groupe Dmitri Outkine n'ont pas mis fin aux ambitions russes sur le continent africain. Là où les mercenaires engagés en Ukraine ont été forcés de rejoindre les rangs de l'armée régulière, ceux présents en Afrique continuent d'agir dans l'ombre. Le nom va peut-être changer, mais l'action, elle, va perdurer.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire du groupe Wagner, dont nous parlons avec notre invitée Ksenia Bolchakova. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous êtes avec Alexandra Jousset, la réalisatrice du documentaire intitulé Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine et prix Albert Londres 2022. J'en profite pour vous féliciter une nouvelle fois.
Merci.
Prolongeons tout d'abord la fin de notre récit, si vous voulez bien. On l'a dit, la guerre en Ukraine et la mort de Prigojine et de Outkine n'ont pas mis fin à la présence de Wagner en Centrafrique. Mais ça a évidemment entraîné des changements. Que peut-on dire de la présence russe en République centrafricaine aujourd'hui ?
Eh bien, après la mort d'Evgeny Prigojine, Vladimir Poutine, le Kremlin, le ministère de la Défense ont repris le contrôle sur cette force un peu hybride, sur cette armée de l'ombre qui justement a été hors de contrôle sur les dernières semaines de son existence. Et elle a été fondue dans plusieurs autres organisations. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs compagnies militaires privées, des nouvelles qui ont été créées. Mmh. On parle de la compagnie Redoute, Convoy, qui déploie ses hommes aujourd'hui en Ukraine. Et pour les pays africains, il y a une nouvelle structure qui s'appelle Africa Corps, qui a été créée, ouais. qui est sous le patronage direct d'un monsieur qui s'appelle monsieur Yevkourov, et qui est vice-ministre de la Défense russe. Et c'est ce monsieur Yevkourov qui chapeaute aujourd'hui ces mercenaires qui sont toujours en Centrafrique, qui sont d'ailleurs toujours présents, avec un contingent qui n'a quasiment pas changé en fait depuis la mort de Prigogine. On est entre 1100 et 1500 hommes selon les semaines et selon les mois.
Avec toujours ce contrôle de l'État russe, moins important, aussi important ou plus important ?
Plus important, évidemment. Plus important parce qu'avant, les hommes d'Evgeny Prigogine, et Evgeny Prigogine faisait un petit peu ce qu'il voulait en Centrafrique, ils avaient placé leurs conseillers politiques au sein de la présidence, ils avaient leurs hommes à l'Assemblée nationale centrafricaine, ils avaient les mains et les pieds à peu près partout. Aujourd'hui, il est clair que le Kremlin a repris un petit peu le contrôle de ce qui se passe là-bas, il a repris le contrôle également des ressources qui sont exploitées par les géologues et les sociétés qui appartenait à feu M. Prigogine. Donc il y a évidemment un contrôle accru aujourd'hui des autorités russes sur tout ce qui peut se passer en Centrafrique.
Alors les Russes sont concurrencés, d'après ce qu'on a dit dans le récit, c'est donc la vérité, concurrencés par la présence de mercenaires américains. Qui sont-ils ceux-là ?
Alors ça c'était assez nouveau. Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, s'est dit qu'il était assez embêté quand même d'être aussi tenu en tenaille par Moscou sur tous les fronts, hein, politiques, économiques. Donc il s'est dit qu'il allait un petit peu diversifier ses sources de ses fournisseurs de sécurité privée, et il a fait appel à une compagnie qui s'appelle Bancroft, donc c'est pareil, hein, une société militaire privée américaine. Pour le coup, alors ils sont beaucoup moins nombreux, c'est pas non plus les mêmes tâches, hein, qui leur incombent. Ils doivent, eux, reprendre le contrôle de sites où il y a aussi des ressources premières, mais essentiellement du cobalt, du lithium, et ces Américains ne sont pas payés par l'État centrafricain. L'idée, c'est qu'ils se paieront eux-mêmes sur la bête une fois qu'ils ont réussi à sécuriser ces sites et à les exploiter. Donc c'est à peu près le même schéma hein, finalement qu'avec Wagner, sauf que Bancroft, donc cette compagnie militaire américaine, ne va pas sur le front, entre guillemets, combattre les rebelles qui sont au port de la capitale.
Alors plus globalement en Afrique, Moscou continue de déployer sa stratégie. Pouvez-vous nous dire où sont implantés les mercenaires russes maintenant et s'ils utilisent la même stratégie que ce qui a été fait dans le laboratoire centrafricain ?
Alors les Russes ont toujours utilisé la même stratégie. Ils ont d'abord testé le terrain en envoyant des sociologues, des politologues, des journalistes pour voir un petit peu si politiquement ça pouvait coller. Et dans un second temps, ils envoyaient des mercenaires. Ça a été le cas en Centrafrique. Ça a été le cas d'ailleurs avant la Centrafrique, à Madagascar, au Mozambique, au Soudan. Ça n'a pas aussi bien marché. Aujourd'hui, ils sont présents dans plusieurs pays. Ils sont présents évidemment en RCA, mais aussi au Mali. On en a beaucoup parlé.
Ah oui.
Ils ont commencé à se déployer dès janvier 2022 et après février 2022, après le départ aussi des derniers soldats français. C'est un déploiement qui a été fait de façon presque ouverte, on va dire.
Oui, on en a parlé d'ailleurs dans l'affaire sensible la semaine dernière.
Et ils sont aujourd'hui, pareil, ils sont très nombreux. Hein. Ils sont à peu près entre 1400 et 1500 hommes quand même dans ce pays.
Oui.
Ils sont présents également au Burkina Faso. Ils sont présents, ils seraient présents à travers cette nouvelle structure qu'est Africa Corps, également au Niger. On sait également que, de façon plus globale, hein, si on sort de la thématique des compagnies militaires privées, le jeu géostratégique aujourd'hui que joue Poutine et que joue le Kremlin en Afrique, c'est de placer un maximum de pions et de prendre un maximum de positions dans ces pays-là. Donc ça ne passe pas uniquement par le mercenariat, ça passe aussi aujourd'hui par des accords très officiels entre les ministères de la Défense, d'une coopération collatérale... une coopération bilatérale qui se met en place militaire et économique. Et puis il y a aussi toujours, on va dire un peu ces black ops, ces opérations noires qui se font de façon pas très propre, notamment des opérations d'influence, de propagande. On sait de sources sûres avec Alexandra Jousset par exemple qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire où les Russes rachètent des médias locaux pour distiller encore une fois leur message, leur propagande anti-française. Et ça, ce sont des choses qui se font toujours aujourd'hui.
Alors justement, la France et même d'autres pays occidentaux ont-ils les moyens de contrer cette montée de l'influence russe en Afrique ?
Alors, je dirais que quelque part, on arrive très tard. On a pris conscience en France et dans les autres pays occidentaux de cette menace une fois qu'elle était très installée.
Ah oui.
Il y a quand même quelques initiatives, et pas des moindres. En France, il y a eu la création de Viginium, qui est censée donc faire une veille sur tout ce qui est donc ingérence, notamment russe, étrangère, hein, et qui met en danger les intérêts français. Les autorités françaises ont décelé un certain nombre d'opérations de déstabilisation des intérêts français, notamment en Afrique et puis en France aussi, des opérations de tentatives d'ingérence dans les processus électoraux français. Alors, voilà, on arrive tard d'un côté, puis d'un autre côté, on est aujourd'hui pleinement conscient de la menace que ça représente, et on est en train d'essayer de la contrer. Dans les pays comme la RCA, où tout est absolument vérolé, contrôlé, tenu, ça va être très difficile de revenir en arrière. Et puis en même temps, le président Faustin Archange Touadéra, visiblement, lui aussi s'est rendu compte du danger que pouvait représenter potentiellement le fait de laisser entièrement les clés de son pays à la Russie. Et donc, il multiplie les contacts, on l'a dit, avec
Paris.
Les Américains.
Il est venu à Paris
Il n'y a pas longtemps. Il était là en septembre. Il était là également en avril dernier. Un dialogue reprend entre Paris et Bangui. Donc, quelque part aussi, on peut se dire que tout n'est pas acté et tout n'est pas fini.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Ksenia Bolshakova, pouvons-nous revenir ensemble sur la connexion de Wagner avec le pouvoir russe qui s'illustre évidemment et en premier lieu par la proximité entre Prigogine et Poutine, et puis à la fin tragique de cette relation également?
Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que Wagner n'a jamais été une véritable société militaire privée. Wagner a toujours été une sorte de filiale du ministère de la Défense. Les hommes de Wagner, dès la création du groupe, se sont entraînés sur une base militaire qui appartenait au ministère de la Défense. Les armes qui lui ont été fournies par le ministère de la Défense. Tous ces hommes sont passés par les rangs de l'armée, voire du GRU, des services de renseignement militaire russe. Donc, avaient déjà des connexions, si ce n'est personnelles, mais professionnelles, avec quand même l'institution, avec cette institution. Et puis, les ordres venaient, ils ne venaient pas directement uniquement d'Evgeny Prigogine. Il y avait quand même des intérêts, entre guillemets, purement russes et politiques et géopolitiques qui étaient défendus par ces hommes. Donc, quand on parle de société militaire privée, on s'imagine, nous, dans nos têtes de France, quelque chose qui serait un petit
Djibouti,
peu comme Blackwaters, ouais. des gars qui sont déployés uniquement pour remplir les caisses de leur patron, et puis c'est vraiment le système capitaliste. Là, on est carrément dans un autre schéma, on est vraiment dans de la lutte d'influence, avec tous les outils et toutes les moyens propres ou plus crado, on va dire, vraiment, parce que ça, c'est vraiment le bras armé un peu sale de la géopolitique russe.
La basse besogne, c'est eux.
Mais voilà. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut quand même souligner, c'est que Wagner a toujours travaillé main dans la main avec des gens du ministère de la Défense au départ. Il y a des liens personnels entre Evgeny Prigogine et Vladimir Poutine. Vous les évoquiez tout à l'heure, les deux hommes sont natifs de Saint-Pétersbourg. Ils se sont rencontrés à la fin des années 90. Ils auraient même fait un petit peu du business ensemble dans les casinos à l'époque. Ils se connaissent parce que Vladimir Poutine fréquentait tous les restaurants de Prigogine. Il y a des liens, si ce n'est des liens d'amitié, mais en tout cas une connivence professionnelle, ouais. Et des intérêts communs, parce qu'Evgeny Prigogine se disait extrêmement patriote de son pays. Donc il se retrouve aussi sur la ligne politique. Et comment ça se termine? Ça se termine extrêmement mal, parce que Evgeny Prigogine va trahir son mentor, va trahir le tsar, va trahir Vladimir Poutine, et la trahison dans ce pays se paye au prix fort, c'est-à-dire l'exécution.
La trahison, c'est l'analyse de Poutine.
Exactement. Non, mais là, je parle...
J'entends bien.
Bien sûr.
On peut se poser la question aussi de l'existence d'une société de mercenaires. Est-ce que ça veut dire que l'armée russe n'est pas assez compétente? Alors, bien sûr, c'est aussi pour la basse besogne, pour qu'on cache les choses, évidemment.
Bien sûr.
Mais enfin, au Donbass et ailleurs en Ukraine, il y a une armée russe. Elle n'est pas suffisante.
Aujourd'hui, il y a une armée russe. Mais oui, elle n'est pas suffisante, parce que si on remonte un petit peu dans le temps, le moment où Evgeny Prigogine va sortir du bois, au moment où il va assumer la paternité du groupe Wagner, le fait qu'il en ait le chef, le patron, le commandant, le financier, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe? L'armée russe, qui initialement pensait gagner cette guerre en 3 jours, arriver jusqu'à Kiev et marcher de façon triomphale
sur
les rues du Khrechatsk, tout le monde était assez quand même interloqué de voir que cette armée était en train de s'embourber et qu'elle n'arrivait pas à progresser sur le terrain. Qu'est-ce qu'il se passe alors? Vladimir Poutine autorise Evgeny Prigogine, dès le mois de mai 2022, c'est-à-dire quelques mois à peine après le début des hostilités, à aller recruter des hommes en prison, à recruter de la chair à canon. Et on voit, il y a des vidéos qui ont fuité justement, on voit le chef de la milice Wagner dans des cours de prison recruter des prisonniers, non pas des prisonniers de droit commun, des assassins, des violeurs, des multi-récidivistes, en leur disant, vous ne remettrez plus jamais les pieds en prison, vous avez deux portes de sortie, c'est le paradis ou la médaille et puis la victoire, mais vous serez libre. Et donc, il arrive à recruter plus de 50 000 prisonniers quand même. 50 000 hommes qui sont envoyés dans les points les plus chauds du front, là où les jeunes conscrits, là où les jeunes soldats russes ne s'en sortent tout simplement pas, parce qu'ils sont mal formés, parce qu'ils sont mal équipés, parce qu'ils n'ont aucune expérience. Donc, on envoie des tueurs et des assassins sur le front pour gagner du terrain, et aussi pour n'avoir, entre guillemets, aucun remords de les voir tous mourir. C'est aussi, un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a, aussi cette dimension-là à prendre en compte. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'armée, c'est parce qu'encore une fois, on a une basse besogne à leur faire remplir.
Alors on connaît la puissance des cyberattaques de la Russie, un peu contre tout le monde, enfin contre l'Occident, et on a évoqué rapidement le personnage de Dmitri Ziti.
Ziti.
Oui, je sais, il y a eu quelques difficultés de prononciation sur les noms russes. Je n'ai pas appris le russe, hein, écoutez.
Non, mais
bien,
ce
monsieur Ziti, ça montre bien aussi que c'est une véritable arme, le cyber, pour les Russes.
Il n'y a pas que le cyber. Là où il est très intéressant, ce personnage de Dmitri Ziti, vous l'avez dit, il est francophone, parfaitement. Il a fait une école de commerce en France. Il connaît les codes des sociétés occidentales et il sait aussi comment parler aux interlocuteurs dans les pays africains francophones. Donc, il a des codes que le gros bras armé de Kalachnikov, un peu barbouze, aux pommettes hautes, ne maîtrise absolument pas. Donc Dmitri Ziti, il a un double rôle. Il a un rôle éminemment d'influence politique et puis aussi tout ce qui est manipulation de l'opinion. Donc ce qu'il va faire en arrivant, il va donc monter ce fameux BIC, le Bureau d'Information et de Communication, pour former des centrafricains au sein de la présidence à espionner les opposants politiques. Il va racheter des médias à gogo, il va ouvrir des nouveaux médias qui vont distiller la propagande pro-russe et il va payer des manifestants. Nous, on avait eu accès avec Alexandra Jousset à tout un ensemble de documents qu'on a appelé les Wagner Leaks. Donc il y a plus de 2600 documents qui ont fuité des ordinateurs d'Evgeny Prigogine. Et dans ces fameux documents, dans ces leaks, on a découvert que Dmitri Ziti payait, par exemple, il en avait pour 1000 euros pour mobiliser une quinzaine de personnes dans la rue pour manifester contre la France et dire « Abat la France » ou « Abat la MINUSCA », »,« La France dehors », tout ça. Donc c'était à peu près, voilà, 1500 euros pour une manif de 15 personnes. Ce qui était organisé quotidiennement là-bas. Et Dmitri Ziti aussi devient une sorte de conseiller de l'ombre du président centrafricain. Il est officiellement traducteur, parce qu'il parle parfaitement français, mais c'est lui qui va faire la passerelle entre Moscou et Touadéra, et c'est lui qui va aussi distiller son message politique, c'est lui qui va faire prendre un certain nombre d'orientations politiques au pays, donc c'est un personnage éminemment central. Et qui est toujours, en Centrafrique, qui est toujours sur place et qui continue à travailler.
Toujours opérationnel. J'ai prononcé les noms des trois journalistes russes victimes de Wagner tout à l'heure, Kirill Rodchenko, Alexandre Rastrogouyev et Orkan Djemal. Vous êtes d'origine russe.
Tout à fait.
Ne serait-ce que pour leur rendre hommage, est-ce que vous pouvez prononcer la bonne prononciation de ces trois noms?
Alors, c'est Orkan Djemal, Alexandre Rastrogouyev, Kirill Rodchenko.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le groupe Wagner, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Adèle Cagard.